On va relire la fin de ce chapitre. Jusqu'au verset 8. D'accord. Donc le chapitre 12, Romains 12, versets 3 à 8. Car par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ceux qui sont parmi vous de ne pas avoir une haute opinion de lui-même, au-dessus de ce qu'il faut, mais de penser de manière à avoir de saines pensées, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. De même, en effet, que dans un seul corps nous avons beaucoup de membres, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes beaucoup, sommes un seul corps en Christ, et chacun, individuellement, membre les uns des autres. Mais puisque nous avons des dons de grâce différents, selon la grâce qui nous a été donnée, est-ce la prophétie ? Prophétisons selon la proportion de la foi. Le service ? Soyons occupés du service. Celui qui enseigne, qu'il s'applique à l'enseignement. Celui qui exhorte, à l'exhortation. Celui qui distribue, qu'il le fasse avec simplicité. Celui qui est à la tête, qu'il conduise soigneusement. Celui qui exerce la miséricorde, qu'il le fasse joyeusement.
Peut-être juste pour faire le lien entre ce matin et maintenant, à propos de la volonté de Dieu, puisque là on se rend compte que la volonté de Dieu, Dieu a décidé que nous allions être différents, même en étant chrétiens, on reste très différents les uns des autres, et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cette différence? Peut-être juste un mot, parce qu'il y a pas mal de nos jeunes qui sont là, sur la volonté de Dieu, en quelques mots, j'ai pris quelques notes d'un livre que j'ai lu de Danny Amo sur la maturité spirituelle et la volonté de Dieu. Je voudrais juste expliquer deux, trois petites choses pour qu'on comprenne. La volonté de Dieu, d'abord, elle est souveraine. C'est-à-dire, il a créé. Et deuxièmement, il veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est le choix de Dieu. La deuxième chose, c'est que la volonté de Dieu est aussi morale. Dieu veut que nous soyons saints, que nous soyons en même temps d'une pureté morale absolue. C'est parce qu'il est ainsi, et il désire cela. Ça, c'est sa volonté, et ça, c'est vrai pour tous les hommes. Et cela fait appel à notre obéissance. Dieu veut ça, et moi, je peux répondre en obéissant à la volonté de Dieu. Vous comprenez ? La troisième chose que l'on peut dire, c'est que la volonté de Dieu est relative. C'est-à-dire relative à chacun de nous. C'est un petit peu ce qu'il appelle l'auteur le sur-mesure. C'est-à-dire que cela nous amène à pouvoir avoir des opinions différentes, des appréciations différentes, et ça nous amène à des pratiques différentes. Exemple, Romains 14 qu'on a vu l'année dernière. Il n'y en a pas qui étaient mauvais et puis des bons. Mais il y avait une appréciation différente des situations, et Dieu, justement, a cette volonté de nous amener à comprendre les choses, les uns les autres, et de vivre pleinement ce que nous avons compris. Et ça répondra peut-être à une question qui a été posée tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire, finalement, qu'il y a des saines pensées, mais il y a une mesure de foi en rapport avec ces saines pensées. Alors que pour certains, il y a des saines pensées, puis pour l'autre, les mêmes choses, ça ne sera pas les saines pensées, peut-être. Voilà, c'est la question qui se pose un peu, la volonté relative de Dieu, le sur-mesure de Dieu. En plus, il y a ce qui peut être appelé la volonté spécifique de Dieu. Pour appeler un serviteur, par exemple Paul, Dieu a décidé d'aller chercher celui-ci parce qu'il va être un vase d'élection pour moi. Mais tout le monde n'a pas été Paul, mais c'est le choix de Dieu, un Abraham ou etc. Donc pour montrer que Dieu a une volonté pour moi, c'est vrai, il y a une volonté générale de Dieu, mais pour moi, elle peut être spécifique pour un appel donné, mais elle peut être aussi relative en fonction de ce que je suis et des capacités que Dieu m'a données. Et c'est peut-être dans ce domaine-là où on va se retrouver dans notre paragraphe. Parce que, justement, on est très différents les uns des autres. Et pourtant, on va marcher, on va vivre ensemble, et on va être les compléments les uns des autres, pour que tout fonctionne, puisque l'exemple est un corps. Donc, on comprend bien que dans un corps humain, eh bien, un doigt, c'est pas un œil, et un pied, c'est pas le foie. Hein, on comprend bien ça. Alors, je ne sais pas si ce que je vous ai dit vous aidera un peu mieux à comprendre, parce que souvent on dit, mais cette volonté de Dieu bonne, agréable et parfaite, on fait de soi le centre avec cette question de volonté de Dieu. Et alors comment est-ce que je vais pouvoir la découvrir, etc. Mais d'abord, le centre, c'est pas moi, c'est Dieu. Dieu qui veut et qui décide. Et puis, dans cette volonté de Dieu, je vais être inclus à un moment donné, et Dieu me donne ce qu'il pense. Oui. Donc, Dieu ne veut pas agir avec nous, comme par exemple avec un pion, en disant, il va falloir, je vais lui mettre quelques points là, quelques panneaux. Il faut qu'il les trouve, comme ça il va aller dans la bonne direction. Et puis j'attends de voir s'il y va. S'il y va pas, attention, il se fera punir. On est un peu comme ça, on dit, si je ne suis pas dans la volonté de Dieu, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Mais voilà, ici je crois qu'il faut découvrir ce sujet d'une manière beaucoup plus globale, et on comprend que ça serait en soi-même tout un sujet. Mais voilà, on se trouve dans un verset qui nous pose un peu problème, dès le verset 3, c'est que il nous est dit, bon, évidemment, pas avoir une haute opinion de soi, une haute pensée de soi-même, bon, ça c'est relativement facile, mais on va peut-être y venir. Mais par contre, mais de penser de manière à avoir de saines pensées, selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Et c'est peut-être déjà un petit peu plus difficile à dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Sinon que, une partie de la réponse est dans la suite, il me semble, puisque de même, en effet, il y a la suite, un corps, et nous sommes tous différents. Je ne sais pas si ça a un peu éclairé le sujet.
Paul, avant de rencontrer le Seigneur Jésus, avait une excellente opinion de lui. Il avait une certaine appréciation, il était convaincu de servir Dieu, il était destructeur, mais bien engagé, et il était reconnu par d'autres, il avait besoin d'ailleurs de cette reconnaissance, et au début du chapitre 9 du livre des Actes, au moment où il va rencontrer le Seigneur avec ce qu'il décrit, il a même des lettres avec lesquelles il peut se présenter et faire beaucoup de destruction. C'est alors qu'il rencontre le Seigneur et quelque chose change. Il réalise qui est la personne qui lui a parlé. Et peu après, d'ailleurs, il est capable, de recevant de Dieu la lumière qui lui convient, et les choses s'étant mises en place dans toute la connaissance qu'il avait, de démontrer que c'est le Messie, c'est le Christ, c'est celui qui était annoncé. Alors on est surpris de voir ces choses-là dans le même chapitre, avec tout un cheminement de Dieu qui place Paul à une place dans tout un environnement, ceux qui l'accompagnaient, Ananias, le service d'Ananias, etc. Alors, il est touché, et il réalise d'un seul coup que l'opinion qu'il avait de lui-même, ou l'appréciation qu'il avait de lui-même, n'était pas exacte, dites-moi. On a toujours besoin de corriger l'appréciation qu'on a de nous-mêmes. C'est bien dans une famille. Quand il y a quelque chose qui ne va pas chez quelqu'un qui est un peu trop pétri par l'orgueil, d'entendre les autres dire, alors attention, t'as fait ça, ça va pas, en voilà la preuve. Faut écouter cette voix-là. C'est utile. Parce que dans la parole de Dieu, l'humilité, c'est la grandeur. Philippiens 2, exemple du Seigneur Jésus, la véritable humilité, la plus grande humilité, c'est ce qu'il y a de plus élevé en grandeur. Et l'apôtre, touché alors, commence ce paragraphe en disant « Par la grâce qui m'a été donnée ». Une grâce qui vient le rencontrer et qui lui dit « Voilà qui je suis et voilà qui tu es. Et voilà ce qui va arriver te concernant et ce que tu vas faire souffrant pour mon nom ». Donc, une haute opinion de soi-même, ça n'est pas quelque chose qui convient. Alors on pourrait dire, bon, alors c'est fini, j'ai plus une haute opinion de moi-même, et finalement on va plus loin en disant, bien, je ne suis plus concerné, moi je ne suis plus capable de rien, c'est l'affaire des autres, j'ai entendu ça un certain nombre de fois. Je continue à lire, pour moi c'est la parole de Dieu qui fait autorité, hein, et je lis, au-dessus de ce qu'il faut, ou dans une autre traduction, au-dessous, dans l'ancienne traduction, de celle qu'il convient d'avoir. Donc, ça veut dire quand même qu'il faut avoir une certaine opinion de soi. L'éclairage que Dieu nous donne, si nous jouissons de tout le travail de Dieu en nous, qui continue à travailler, le Seigneur continue à travailler en nous, on a cité ce matin le passage de l'Épître aux Galates, jusqu'à ce que Christ soit formé en nous, en vous. Philippiens, Dieu a commencé en vous une bonne œuvre, il l'amènera jusqu'à l'achèvement. Il y a un travail de Dieu. Je peux constater ce travail de Dieu. Il me donne une certaine appréciation de moi. Je n'ai pas le droit de taire ce que Dieu a mis en moi. Et voilà qui change mon opinion. Et progressivement, mon opinion n'est plus celle d'un homme, mais elle est celle de l'éclairage que Dieu me donne quand je suis en Christ. Donc, pas une autre opinion, une haute opinion selon l'homme, mais quand même une appréciation la plus juste possible de ce que Dieu nous a donné pour porter notre responsabilité, et comme on le voit dans la suite du paragraphe, pour porter nos fonctions, pour remplir notre fonction. Alors, les saines pensées, eh bien, on les découvre là. Je cherche d'où Dieu m'a pris, ce qu'il a fait, ce qu'il m'a appris jusque-là, ce qu'il me montre par sa parole me concernant, ce que d'autres, des vrais chrétiens sincères, droits, que je rencontre ici et là, me font découvrir. Je le reçois, restant humble, et je suis dans la sphère de ces saines pensées. Mais dites-moi, on l'a dit ce matin, je n'ai pas tout compris. Il y a des choses pour lesquelles je ne suis pas mûr. Je risque donc de vivre des choses qui ne sont pas tout à fait conformes à la pensée de Dieu, mais je ne le sais pas. Mais je vais droit, franchement, bien engagé, avec la mesure de foi qui est la mienne aujourd'hui. Je suis donc dans la sphère de ce que Dieu m'a montré dans son éclairage avec ma mesure de foi. Demain, je vais apprendre quelque chose de plus par la parole de Dieu. Romains 10, 17, la foi est de ce qu'on entend et de ce qu'on entend par la parole de Dieu. Dieu me montre quelque chose que je n'avais pas saisi. Ça va changer quelque chose dans mon intelligence spirituelle et dans ma manière de vivre pratiquement. Bien. Je pars sur cette nouvelle base, Dieu m'a apporté quelque chose de nouveau, je vais marcher avec cette mesure de foi. Vous voyez, ça peut paraître compliqué a priori, et finalement, on est là, dans la main de Dieu, on se laisse guider, et puis on trouve que l'approche devient facile.
Peut-être qu'il y a un exemple de ce que... C'est que cette saine pensée de ce que l'apôtre Paul pouvait avoir de lui-même, c'est en 1 Corinthiens 15 et au verset 9, quand il parle donc du Seigneur Jésus qui s'est révélé, qui s'est présenté, et donc il donne la liste de ceux qui ont rencontré le Seigneur Jésus après sa résurrection, et puis au verset 9, au verset 8, il dit « Comme d'un avorton, il a été aussi... Il a été vu aussi de moi, et donc verset 9, « Car je suis le moindre des apôtres, moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'assemblée de Dieu, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, mais j'ai travaillé beaucoup plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Donc voilà, l'apôtre Paul, il savait qui il avait été, ce qu'il avait fait, et il sait ce que Dieu a fait en lui et ce que Dieu peut produire en lui, et donc il y a un juste équilibre entre le risque de se surestimer et le risque de sous-estimer.
Philippe, la suite donne une explication. Elle est immédiate avec le verset 4, car comme dans un seul corps nous avons plusieurs membres et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs sommes un seul corps en Christ et chacun individuellement membre l'un de l'autre. Bon, je ne vais pas entrer dans toute l'explication, ils font un partage et c'est très heureux qu'il y en ait un. Mais voilà, dans un seul corps, il y a plusieurs membres, ils sont tous ensemble, malgré eux, et ils dépendent les uns des autres. Hein, si le bras fonctionne plus, hein, je vous assure qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire de la même manière ou s'il fonctionne partiellement. Hein. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire de la même manière et tout le corps en souffre. Mais chaque partie a sa fonction et doit remplir sa fonction à sa place. Alors, de penser de manière à avoir de saines pensées selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun, voilà, dans le corps, dans la pensée de Dieu, tout ce qui est en Christ. Je vois donc chacun avec son niveau de foi, hein, sa taille de foi, si on peut dire, ce qu'il a reçu de Dieu. L'un a compris certaines choses que l'autre n'a pas comprises, l'un a une expérience pratique que l'autre n'a pas, l'un a un discernement que l'autre n'a pas, l'un est porté à aider et d'autres moins, etc. Mais chacun, dans sa mesure, doit remplir sa fonction pour l'harmonie de l'ensemble. Et ces saines pensées, selon la mesure de foi, c'est une contribution individuelle, responsable, qui doit s'exprimer dans sa vraie mesure, pour l'harmonie de l'ensemble.
Une des caractéristiques du corps de Christ, c'est justement l'harmonie. Quand on lit dans 1 Corinthiens 12, c'est Dieu a placé un tel à ceci, tel autre à cela. Et au fond, c'est ce qu'on a besoin d'apprendre, être là où Dieu nous place. C'est Paul, on dirait qu'il débute au verset 3 par un pléonasme, si je veux dire, par la grâce qui m'a été donnée. La grâce, c'est un don. Et on dirait qu'il en rajoute un peu. Et par un peu plus loin, il dit, par la grâce, je suis ce que je suis. Pour chacun de nous, Éphésiens 4, 7, chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et si Dieu nous fait une grâce nous a donné une capacité, ce n'est pas pour nous, c'est pour le corps de Christ. Et c'est pour le bien des autres. Et j'ai besoin, et nous avons besoin de ces différentes fonctions. Dans un sens, Jacques, j'ai besoin de toi, mais tu as besoin de moi. On peut se dire l'un l'autre, cela. Pourquoi? Parce que c'est la mesure du don de Christ, c'est ce que Dieu fait. Et puis de notre côté, suivant ce que Dieu donne, Dieu donne selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Cela relève de ce que Dieu donne. Alors, il faut que nous fonctionnons. Et puis c'est pour ça qu'ensuite, eh bien, il est question du corps de Christ avec chacun sa fonction. Sa fonction, et peut-être, il y a trois passages qui parlent du corps de Christ, ici, et du fonctionnement dans l'épître aux Éphésiens, et puis dans 1 Corinthiens 12. Ici, l'accent est mis sur, nous sommes, au verset 5, nous sommes un seul corps en Christ et chacun individuellement membre l'un de l'autre. Autrement dit, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Et la mesure de ce que Dieu donne, chacun n'a pas la même fonction, mais c'est Dieu qui distribue. Et nous avons besoin de fonctionner chacun à notre place dans l'harmonie. Et c'est un peu, il me semble, ce que l'on peut retirer de tous ces passages qui nous parlent du fonctionnement du corps de Christ, dans un sens. Et nous avons besoin de fonctionner à la place où Dieu nous a placés. Et, 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 Et cela produira à la fois l'unité, à la fois le service, à la fois la croissance, le bien des uns des autres, et ce sera pour la gloire de Dieu.
On voit donc combien il est important de cette harmonie, comme vient de le dire Jean-Luc, pour le corps de Christ. C'est tout à fait le contraire de ce que l'on voit dans le monde actuel, où il y a un esprit de compétition entre les gens, entre les personnes d'une même entreprise, pour arriver toujours à gagner un échelon. Et si on avait ce genre d'attitude dans le corps de Christ, eh bien on serait pas du tout équilibré. Et l'équilibre, l'harmonie qui existe dans le corps de Christ, justement, c'est dans la diversité des dons et dans la complémentarité des dons. Et c'est ce qui doit nous inciter justement à ne pas être en concurrence les uns avec les autres et à rechercher le don de mon frère, mais à être moi-même et à jouir du don que Dieu m'a confié. Donc la complémentarité, elle est signe de richesse, elle n'est pas signe de, au contraire, de pauvreté.
Dans le chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens, nous lisons parmi les dons cette expression au verset 9, et à un autre, la foi. En 1 Corinthiens 4, cette expression, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Alors, si on prend cet éclairage pour éclairer un petit peu notre verset, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun, je comprends le deuxième regard qui a été exprimé tout à l'heure. Le premier, ne pas s'estimer au-dessus ce que nous sommes. Le second, ne pas avoir une fausse opinion par excès d'humilité. Dieu m'a donné quelque chose, j'en suis responsable. Et je respecte Dieu dans ce qu'il m'a donné. Donc je ne dois pas fonctionner au-dessous de la mesure de foi que Dieu m'a donnée. Voilà, un don, je le reçois de Dieu, je respecte et j'honore Dieu en allant avec la mesure de ce qu'il m'a donné. Pas au-dessus, mais pas au-dessous non plus.
Ça va nous aider un peu à mieux comprendre là. Donc la mesure de foi, si j'ai bien compris ce qu'on vient de nous dire, ça serait la mesure, c'est-à-dire ça serait le don. Dieu me fait un don, me donne une capacité, je le reçois de la part de Dieu, donc par la foi, et à partir de là, je fonctionne. C'est ça que ça veut dire, la mesure de foi? Parce que le problème qui se pose dans Romains, un peu plus loin, on avait vu l'année dernière, il y a le faible en foi et il y a le fort en foi. Mais apparemment, ça n'a rien à voir. Ça reste une question. La deuxième chose, j'ai remarqué que dans Éphésiens 4, il est parlé aussi d'une mesure, et c'est dans le texte qui nous parle justement des dons de grâce, des cadeaux, des générosités de Dieu. Et au chapitre 4, au verset 7, il est dit « À chacun de nous, la grâce, le cadeau, a été donnée selon la mesure du don de Christ ». Donc Christ donne, voilà, à chacun différemment. Hein, il y a une mesure. D'un autre côté, on voit dans 2 Corinthiens 10 que ce qui nous est demandé de faire, c'est il y a une sphère dans laquelle ça se pratique. Par exemple, dans 2 Corinthiens 10, on voit qu'il y a des problèmes aussi des gens qui se comparent les uns aux autres. Et d'ailleurs, il est dit qu'ils ne sont pas intelligents. Donc quand on se compare à un autre, ça montre qu'on n'est pas intelligent. Autrement dit, bête. Et là, dans le verset 13, il dit « Mais nous ne nous glorifions pas dans ce qui est au-delà de notre mesure, mais selon la mesure de la règle que Dieu, de mesure, nous a départie pour parvenir aussi jusqu'à nous. » Et il est parlé au verset 15 « Nous ne nous glorifions pas dans ce qui est au-delà de notre mesure dans les travaux d'autrui. » Ça veut dire dépasser ma sphère de compétences. Ou d'aller sur la plate-bande de quelqu'un, hein, et on voit la compétition dont tu parlais tout à l'heure. Donc la mesure, chacun de nous reçoit quelque chose. Donc apparemment, mesure de foi, moi je reçois tout simplement ce cadeau de Dieu et j'y vais avec. Je vais avec ça. C'est ça que ça veut dire, ça? Parce que la mesure de foi, on pourrait dire, moi j'ai pas trop la foi, toi t'as plus la foi. Voilà, c'est pour ça. Moi je trouve qu'il y avait besoin de... Enfin, il y a besoin peut-être encore de confirmer ça. C'est donc bien en rapport avec ce fait que Dieu donne différemment à chacun, et j'ai à recevoir ça tout simplement et à utiliser. C'est ça que ça veut dire ?
Je suis persuadé que Dieu est parfaitement sage, je lui fais confiance. Mon souci, c'est d'arriver à saisir ce qu'il opère et ce qu'il attend de moi avec ce qu'il m'a donné, et de me tenir dans cette sphère-là. Alors, il y aura harmonie d'ensemble, d'abord dans ma famille, d'abord dans l'église locale, ou dans l'assemblée locale, et puis ensuite dans la sphère chrétienne d'une manière générale. C'est-à-dire que je n'introduirai pas de cloison là où il n'y en a pas, etc. Hein? La foi, c'est quelque chose qui nous lie à la parole de Dieu, donc c'est Romains 10, 17, et qui nous lie dans le fonctionnement, à l'exemple du Seigneur, et à par conséquent, à Dieu, dans une marche sous son regard à chaque instant. Et là, c'est la sphère de Dieu. Excusez-moi, il n'est pas question de sortir du passage, j'ouvre simplement une petite parenthèse. Quand j'ai trouvé dans la parole de Dieu quelque chose qui est un choix de Dieu, je suis persuadé, et de plus en plus persuadé, qu'il n'y a aucune tradition ou aucune habitude de groupe qui doit se placer au-dessus de Dieu. Ce serait en quelque sorte lui dire « Tu penses ça, tu as tort, moi je pense que... » Et ça, c'est complètement déplacé. Donc, c'est bien ça, l'appréciation, ça n'est pas la nôtre. Le souci, c'est de bien comprendre ce que Dieu a fait et ce qu'il attend, et de se tenir là, entrer dans ce que Dieu a fait et propose et attend.
Il y a trois passages qui sont complémentaires pour parler de cette mesure, de cette fonction du corps de Christ, dans le corps de Christ. Et dans chaque passage, il y a un verset clé qui peut nous aider à comprendre le propos de Dieu. Il me semble que le verset clé qu'on a dans notre chapitre, c'est au verset 5, « Nous qui sommes plusieurs sommes un seul corps en Christ, et chacun individuellement membre l'un de l'autre. » Autrement dit, « J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. » Nous sommes ensemble, chacun individuellement membre l'un de l'autre. Et l'harmonie dans la vie de ce corps sera dans le fait que chacun prend soin de l'autre. Dans le passage d'un Corinthiens 12, où il est question du corps de Christ, peut-être que le verset clé, c'est le verset 7. Or, à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue de l'utilité. Alors, je vous fais remarquer que dans les deux passages, il est question de chacun. Il n'y a pas quelqu'un qui dit « Je n'ai rien, Dieu ne m'a rien donné ». Mais à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue de l'utilité pour l'ensemble. On n'a pas reçu un don pour soi-même, on n'a pas reçu un don pour se faire valoir, on a reçu un don pour le bien des autres. Et j'ai besoin de toi, et tu as besoin de moi. Et puis, dans Éphésiens 4, verset 7, donc c'est... Et dans les versets clés, il y en a peut-être un peu plusieurs, c'est verset 7. « À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Donc ce don qui est donné à chacun de nous, non pas à quelques-uns, c'est le Seigneur qui le mesure. C'est suivant ce qu'il pense lui. « À chacun est donné selon la mesure du don de Christ. » Et un peu plus loin, verset 11. « Et lui a donné les uns comme apôtres, etc. » Et la pensée dans Éphésiens, c'est le Seigneur a donné pour le bien de l'ensemble, afin que le corps de Christ grandisse. Et tous ces passages qui nous parlent de ce corps de Christ, de ses fonctions, il me semble qu'un des éléments, un des mots qui pourrait caractériser cela, la pensée de Dieu, c'est l'harmonie. j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Nous avons besoin les uns des autres. Et aussi, il y a une autre pensée peut-être, c'est l'harmonie, mais c'est aussi quelqu'un qui fait fonctionner ce corps. Il y a un corps qui fonctionne avec des membres, mais il y a une tête qui fait fonctionner. Et la dépendance de chacun par rapport à la tête est importante. Et c'est un peu aussi ce qui nous est aussi présenté là, quand il y a plusieurs membres, tous les membres n'ont pas la même fonction, mais il y a un seul corps avec une tête qui fait marcher l'ensemble. Que le Seigneur nous donne à vivre ce qui me semble être un des mots, peut-être le mot le plus important quant à la vie du corps de Christ, vie dans l'assemblée locale ou d'une façon plus générale, à vivre cette harmonie du corps de Christ. Parce que j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Nous avons besoin de vivre cela. Et si nous vivons chacun notre fonction là où il nous a placés, qu'est-ce que ce sera utile ?
En 1 Corinthiens 12, la pensée est vue dans une traduction pratique locale, à Corinthe en particulier.
Pour faire suite à ce que Jean-Luc disait, cherchez pas, mais la fin du paragraphe dans Éphésiens 4 dit que tout le corps bien ajusté, lié ensemble par chaque jointure du fournissement, produit selon l'opération de chaque partie, dans sa mesure, l'accroissement du corps pour l'édification de lui-même en amour. Voilà un verset pour conclure et confirmer ce qu'il vient de dire. Mais, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'Épître aux Romains, c'est pas du tout une lettre qui parle de la vie collective. Le sujet, c'est l'homme qui va être pardonné de ses péchés, justifié, qui va être sanctifié, mis à part pour Dieu, entièrement transformé à l'intérieur de lui-même, et puis après avoir fonctionné pour glorifier Dieu. Et puis voilà que on vient de découvrir que la volonté de Dieu, c'est que le chrétien vive avec d'autres chrétiens. Alors je voudrais vous dire, excusez-moi, je vais me tourner à gauche, parce que vous êtes non pas le futur des assemblées, mais vous êtes le présent des assemblées, et nous on va passer bientôt, mais vous êtes là. Et alors c'est vrai que plusieurs d'entre vous sont à Bordeaux, vous avez une chance inouïe parce que Bordeaux il y a plein de jeunesse. Donc, on peut être là, à Bordeaux, dans l'église locale de Bordeaux, rue du Docteur Albert Barou, parce qu'il y a d'autres jeunes de votre âge, et c'est bien, et c'est une des bonnes raisons. Mais si on a entendu Jean-Luc tout à l'heure, bordelais, mais après, il ne le disait pas spécialement pour vous, mais moi je vais le dire pour vous. Quand il a dit que chacun a une fonction, a reçu de la part de Dieu une capacité pour le bien des autres, c'est pas pour les quelques frères qui sont là et les sœurs d'un certain âge qui elles ont évidemment une place importante parce que l'expérience, la connaissance, le grand âge. Ah, mais ça voudrait dire que ces personnes-là ont une raison d'être importantes parce que sont âgées, parce qu'elles ont de la connaissance, parce que non. On revient là au sujet. Vous aimez le Seigneur Jésus, donc vous êtes essentiel dans la vie de l'Église. Alors peut-être que on vous aide pas à vous épanouir. Peut-être à Bordeaux, j'en sais rien, mais vous en avez quelques représentants, vous allez les voir après, hein, à la pause. Mais dans l'idée, c'est que l'Assemblée, l'Église à Bordeaux, Angoulême, La Rochelle ou ailleurs, ne peut pas fonctionner sans vous. Et ça, c'est essentiel que vous le compreniez maintenant. Et on se forme en travaillant. Vous savez, dans les études, il y a soit les études, on fait des études intellectuelles jusqu'à 30 ans, ou alors on fait ce qu'on appelle le travail par alternance. C'est-à-dire que l'alternance, on va en cours, et puis on va dans la pratique. Eh bien, je crois que pour vous, eh bien, on vous propose donc une formation par alternance. Donc l'alternance, ça voudra dire que vous allez travailler chaque jour avec ce livre, parce que c'est un bon livre, hein. Et vous allez pouvoir travailler la lecture de la Bible, vous ne comprendrez peut-être pas beaucoup, mais peut-être qu'on est là aussi pour vous aider. Mais avant, avant que nous, il y a quelqu'un qui peut-être peut vous parler, c'est Dieu. Peut-être quand on lit la Bible, est-ce qu'on a déjà pensé que c'est le livre de Dieu, le livre vivant, et que Dieu me parle. Quel que soit mon âge, quand je demande à Dieu, explique-moi, il va donner déjà des éléments essentiels. Donc vous allez commencer par ce travail-là. Et puis en même temps, vous allez pouvoir vous intégrer à la vie collective, pour participer à votre place, selon votre mesure, mais vous allez pouvoir apporter quelque chose. Et vous allez essayer de trouver ensemble. Priez entre vous. Bien, ça, c'est une bonne idée. Trouvez des moments pour prier entre vous, pour l'église locale. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous êtes dans un système qui s'appelle le monde, le siècle. Ce système est de plus en plus individualiste. Je cherche ce qui me plaît. Et si je ne trouve plus, quand j'ai pompé tout ce qui pouvait me plaire, je vais voir ailleurs. Ça, c'est le principe du monde. On nous a dit, ça marche pas bien, la volonté de Dieu avec ça. Avant, c'est quoi? Mais c'est de marcher ensemble. Oui, on est différents, c'est compliqué, il y a les plus âgés, tout ça. Non. Oui, c'est vrai. Mais n'empêche que Dieu donne la possibilité que ça fonctionne. Vous et nous, ensemble. Donc voilà, simplement ce que je vous propose, c'est ce travail par alternance. Apprendre du Seigneur dans la prière, la lecture de la parole de Dieu, et de travailler, de trouver votre place localement. Et pensez une chose, c'est que travailler, c'est aussi pour du long terme. Et c'est ce qui fonctionne pas bien dans le monde d'aujourd'hui, où on va faire un travail pendant quelques jours, pendant quelques semaines, et après on va voir ailleurs. Non, ici, construire, c'est construire progressivement, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, travailler ensemble, vous et nous. Ben, si je vous dis ça, c'est parce que c'est le texte qu'il dit. Et c'est étonnant, parce que c'était pas le sujet de l'apôtre. Et pourtant, la volonté de Dieu, il n'y a rien à faire. Si on grandit spirituellement, ça nous amène nécessairement vers nos frères, vers nos sœurs, vers l'église locale, où on pourra s'investir.
Peut-être dans le corps humain, si un enfant est en train de grandir et il a une paralysie à un membre, ça fonctionne pas. Eh bien, le membre va s'atrophier, il ne va pas grandir. Et dans le corps de Christ, la croissance est produite par le fonctionnement de chaque membre. Et ça, c'est absolument vrai. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas la même fonction, de même qu'on n'a pas la même responsabilité. Quand on a 20 ans, on n'a pas la responsabilité de quelqu'un qui en a 60. Et quand on a 30 ans, on a plus de responsabilités que celui qui en a 20. Mais chacun doit fonctionner là où Dieu l'a placé. Et une des pensées du corps de ce fonctionnement, me semble, c'est l'harmonie. Selon la mesure du don de grâce. L'harmonie. Et il n'y a pas que l'apôtre Paul qui dit cela. Dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre, au chapitre 4... Au verset 10, 1 Pierre 4, 10, « Suivant que chacun de vous... » Attends, c'est bizarre ça. J'ai bien lu. Ah, c'est pas écrit. « Suivant que quelques-uns de vous ont reçu des dons. » C'est « Suivant que chacun de vous a reçu un don. » C'est-à-dire que, frères et sœurs, nous avons chacun un don, une capacité que Dieu nous donne. Et peut-être une chose encore, dans le corps humain, si vous immobilisez un bras d'un enfant, vous allez arrêter la croissance du bras, du membre. Dans le corps de Christ, si tu ne fonctionnes pas, tu ne vas pas grandir. Et ça sera mauvais pour toi, et ça sera mauvais pour l'ensemble du corps. Si tu veux fonctionner en dehors de ce que le corps te demande, si tu vas te déformer, ça sera mauvais pour toi, ça sera mauvais pour l'ensemble. Alors, verset 10 de 1 Pierre 4, « Suivant que chacun de vous, non pas quelques-uns de vous, a reçu quelques dons de grâce, employez-les pour vous-même afin que vous... » Non, « Employez-les les uns pour les autres en bons dispensateurs de la grâce variée de Dieu. » C'est la traduction dans la fonction de l'amour que Dieu met dans nos cœurs. Les uns pour les autres, employez-les. Et quelle grâce et quelle harmonie si on le vit. Et vous avez remarqué, dans le chapitre qu'on étudie, au verset 6, il y a, or, ayant des dons de grâce différents. Il n'est pas dit, selon que quelques-uns d'entre vous ont un don de grâce. mais ayant des dons de grâce différents. C'est-à-dire, chacun de vous, vous avez un don, une capacité, quelque chose que Dieu vous a donné gratuitement. Ayant chacun des dons de grâce différents, selon la grâce qui nous a été départie à quelques-uns. C'est ça? Ah non. Selon la grâce qui nous a été donnée. Alors, nous avons tous cette grâce. Ayant des dons de grâce différents, alors, fonctionnons. Je voulais encore dire une chose et je m'arrête. Quand il y a un enfant qui est en train de grandir, ces différents membres vont grandir harmonieusement suivant sa croissance. Si il est paralysé d'un membre, d'une jambe, d'un bras, ou si on lui immobilise le bras, s'il ne fonctionne plus, le membre ne grandit plus. Dans le corps de Christ, si tu ne fonctionnes pas là où le Seigneur t'a placé, c'est au détriment de ta croissance spirituelle et au détriment de la croissance spirituelle de l'ensemble du corps. Le Seigneur attend que nous fonctionnons là où il les a placés et dans la mesure qu'il nous a donnée à chacun.
Tu viens de lire dans la première épître de Pierre comme bon dispensateur de la grâce variée de Dieu. À la fin du chapitre 1er de l'épître aux Éphésiens, nous lisons « Christ, chef sur toute chose à l'assemblée qui est son corps, oui, la plénitude de celui qui remplit toutes en tous. » Alors ici, je trouve autre chose, c'est le respect de la tête. Christ veut s'exprimer complètement. Si l'un ne remplit pas sa fonction, eh bien, lui, avec ce qu'il donne, va employer quelqu'un d'autre, et si on insiste pour ne pas remplir sa fonction, eh bien, on risque, en tout cas, tant qu'on ne réagit pas, d'être là comme un marginal dans la vie d'une assemblée locale. Donc, il faut y penser. Alors, la plénitude de celui qui remplit tout en tous, c'est le respect de Christ. Je pense à la tête, je pense au corps, on peut aussi penser à la réalité future, quand tout sera réuni en un, mais actuellement, il y a une expression dans le temps de la grâce dans lequel nous sommes, et chaque chrétien a quelque chose à vivre pour traduire en quelque sorte ce que Christ veut traduire sur la terre. Si je l'aime, si je le respecte, je veux le servir à ma place, c'est ma vie, c'est mon bonheur. J'aiderai même les autres dans la mesure où je le peux, et ça fait partie des enseignements qu'on trouve dans la parole de Dieu, à remplir leur fonction à leur place. Quand je trouve qu'un frère, une sœur, a reçu quelque chose que j'apprécie et qu'il ne fonctionne pas à sa mesure, peut-être par timidité ou par crainte, je lui dirai, ça m'arrive, tu as ça, je le sais, Dieu te l'a donné, s'il te plaît, fonctionne à ta mesure. C'est le respect de la personne du Seigneur, le respect de Dieu, pour pouvoir justement fonctionner comme bon dispensateur de la grâce variée de Dieu.
Alors ce que vous venez de dire, Jean-Luc et Jacques, là, c'est encourageant pour les jeunes à pouvoir s'exprimer aussi dans l'assemblée. Parce que souvent, on entend des fois, « je n'ai rien reçu aujourd'hui, mais qu'est-ce que l'on a donné ?» Donc, la responsabilité de chacun, c'est justement de prendre ses responsabilités, de savoir honorer le Seigneur, le glorifier, le servir, et dans l'assemblée en priorité.
Alors, il y a différentes capacités qui sont données dans ce paragraphe. Ça commence par puisque nous avons des dons de grâce différents, selon la grâce qui nous a été donnée. Alors, est-ce la prophétie? prophétisons, selon la proportion de foi, etc. Le service, hein, c'est la question qui se pose. Enseignement, exhortation, distribuer, être à la tête, user de miséricorde. Alors ce qu'il y a d'encourageant, c'est vraiment l'exercice des dons, on va dire universel. C'est pas spécifique. Par exemple, dans Éphésiens, il y avait une petite catégorie qui était donnée à des enseignants. Alors là, effectivement, ce que tu nous disais était vraiment pour encourager en particulier les jeunes frères. Mais là, c'est vraiment pour tout le monde, parce que par exemple, celui qui exerce la miséricorde, c'est pas spécifique à un sexe particulier. Enfin, du moins, je pense pas. Mais ce qui est important, c'est là qu'il le fasse joyeusement. Vous voyez, encore une fois, c'est peut-être la fin, mais qu'est-ce qui est le moteur? Qu'est-ce qui me motive, encore une fois, dans cette vie? Il n'est pas possible de vivre ces versets si on n'a pas réalisé que c'est le résultat de ma transformation, ma rénovation continuelle dans une relation vivante avec Dieu. Alors, le premier, c'était cela, la prophétie. Prophétisons selon la proportion de foi. Proportion de foi, c'est sans doute aussi ce mot foi lié avec la foi reçue, la foi enseignée, un petit peu comme on trouve dans l'épître de Jude. Mais voilà, prophétie, c'est donner une parole de la part de Dieu. Il faut bien se souvenir que dans le premier contexte qui nous est donné, la Bible n'est pas écrite encore, ou en tout cas, elle commence juste. L'Ancien Testament, oui, mais les lettres, elles sont en train de s'écrire. Donc la révélation de Dieu n'est pas complète, et donc il y en a qui reçoivent de la part de Dieu une parole qui va être pour l'édification, dans le premier sens, dont Paul fait partie, puisqu'il y a le fondement des apôtres et prophètes, hein, qui est quelque chose qui est l'enseignement reçu et qui a été mis par écrit, et qui a été collecté dans le canon des Écritures que nous avons ici. Mais cela nous parle aussi, parce qu'il ne faut pas dire que ça s'est arrêté à la mort des apôtres. Et est-ce que, quelqu'un de nous n'aurait pas une parole de la part de Dieu? Et Paul, dans une autre épître, nous explique que cette parole aura pour but, trois buts, c'est édifier, c'est-à-dire construire, exhorter, prévenir ou avertir, et puis consoler des personnes qui sont qui ont besoin d'être encouragées. Voilà le rôle. Alors voilà la prophétie. Prophétisons selon la proportion de foi.
Peut-être une chose. J'espère que personne ici ne pense, ne comprend le mot prophétie là comme le fait d'annoncer l'avenir. Et c'est parler de la part de Dieu, donner un message de la part de Dieu qui est appliqué, qui est le message de Dieu à une situation donnée dans laquelle on est en train de vivre. Et dans un sens, à la réunion, un frère se lève et apporte quelque chose qui va nous donner des forces pour vivre, pour nous nourrir, il parle de la part de Dieu, et dans ce sens-là, c'est une prophétie. Ce n'est pas annoncer l'avenir, ce n'est pas... c'est donner ce que Dieu a donné à ce moment-là. Et selon la proportion de foi, n'essayons pas de faire plus que ce que nous réalisons. Si je mesure... Enfin, moi, je mesure à peu près 1m70, je ferai tout ce que je pourrais pour essayer de faire 1m80, il faudra que je monte peut-être sur un escabeau des chasses, ça n'empêche que je ferai toujours qu'1m70. Et dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Ne dépassons pas ce que nous réalisons et nous ferons du bien. Si nous voulons aller plus loin que ce que nous vivons et réalisons, de la réalité de notre vie avec le Seigneur, ça sera artificiel, c'est une bulle qui va exploser. Mais le but de Dieu, c'est le bien. Et dans notre passage, on retrouve un peu partout dans les différents passages les questions du fonctionnement du corps de Christ. En fait partie, c'est pas tout à fait le même aspect que dans 1 Corinthiens 12, c'est sûr. Mais la pensée de Dieu, c'est que chacun de nous, suivant ce que Dieu a donné, mais pas au-delà de ce que Dieu a donné, ni rester en deçà de ce que Dieu a donné, fonctionnant. Juste une chose encore, c'est pas tout à fait le sujet de Romains 12, mais ça fait rien. Un corps humain, en croissance, va grandir suivant dans la mesure où il fonctionne. Si vous prenez un enfant et que on lui immobilise un membre, eh bien ce membre va s'atrophier, il ne va pas grandir. Et dans la vie chrétienne, dans la vie du corps de Christ, alors c'est pas trop le sujet de Romains 12, oui, de Romains 12, c'est plutôt celui d'un Corinthiens 12, mais dans la vie chrétienne, c'est par la fonction que nous allons grandir. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Et ici, selon la grâce de Dieu, sans dépasser ce que Dieu nous a donné, alors travaillons.
Dans le chapitre 14 de la première épître aux Corinthiens, le prophète est indiqué comme celui qui parle aux hommes pour l'édification et l'exhortation et la consolation. Ce premier don qui est précisé donc là est quelque chose d'assez vaste. Alors on pourrait regarder un frère qui a reçu ce don, une sœur à sa place dans son domaine, hein, il y a différents domaines et moments d'expression, mais il n'est pas du tout exclu qu'une sœur ait un don de prophète, et en dehors de l'action de l'assemblée réunie, le traduise à sa place. Là aussi une responsabilité. Bon, on a quelque chose de global, donc, on a bien lu, édification, exhortation, consolation. Bon, alors ceux qui n'ont pas envie d'être impliqués que le Seigneur titille un petit peu et qui se sentent mal à l'aise de temps en temps parce qu'ils auraient bien quelque chose, mais pouf, ils se retiennent en arrière un petit peu par force, pourraient dire, bon, alors ça concerne le prophète, hein, l'édification, l'exhortation, la consolation, donc je n'ai pas à prendre une part là-dedans. Bon. Moi, j'écoute toujours ce que Dieu dit, ça m'intéresse. Hein. Et au verset 8, je lis « Celui qui exhorte a l'exhortation ». J'entends donc, en cherchant ce que Dieu veut dire, que quelqu'un peut avoir un don véritable avec un champ d'expression, ça n'empêche pas qu'un autre ait un don plus particulier, quelque chose de plus précis, dans l'un des champs du prophète. Et il doit aussi remplir sa fonction, c'est-à-dire qu'il peut être amené à apporter un encouragement à un moment particulier. Donc, vous voyez, il faut pas se cacher derrière les autres. Chacun a sa responsabilité avec le don qu'il a reçu, mais ça peut être au commencement quelque chose de très petit à l'intérieur de quelque chose qui appartient habituellement à un autre. Donc on écoute la parole de Dieu vraiment, on entend ici clairement qu'on est tous concernés quelque part. Bon, ben si peut-être on n'a pas trouvé, fouillons un petit peu, demandons au Seigneur de nous aider, chacun ici a quelque chose, et si il y en a qui ont l'impression qu'ils n'ont jamais rien fait quelque part, ben c'est peut-être le moment de se dire, bon, j'ai effectivement quelque chose, je l'ai entendu, c'est clair. Seigneur, aide-moi, et qu'à partir de maintenant, je commence véritablement, ou je continue, ou je grandisse avec ce qui m'a été donné et ce qui me revient pour la gloire du Seigneur et le profit de tous.
Je voudrais juste dire une chose. Là, on vient de voir, bon, on peut se dire, ben moi, j'ai pas forcément le don de prophète, j'ai pas... Alors, je voudrais qu'on lise la liste de 1 Corinthiens 12, même si c'est un petit peu en dehors, en parallèle, mais quand on regarde au verset 28, Dieu a placé les uns dans l'assemblée, et puis on trouve les apôtres, en second lieu les prophètes, en troisième lieu des docteurs, ensuite les miracles, puis des dons de grâce de guérison, des aides, des gouvernements, diverses sortes de langues, et puis on a une suite de questions. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous font-ils des miracles, tous ont-ils des dons de grâce, de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils? Et on n'a pas la question, tous sont-ils des aides? Donc ça veut dire que s'il y a une question que je n'ai pas à me poser, c'est de savoir si je dois être une aide ou pas, j'en suis fatalement une. Donc voilà, commençons déjà peut-être par ce que Dieu a fait pour chacun de nous, il nous a donné quelque chose pour être une aide, et donc si on veut, peut-être on peut se dire, j'ai pas encore vu exactement ce que Dieu veut pour moi, ou ben voilà, déjà il y a aide, et on peut commencer tout petit.
Alors, notre chapitre nous dit, vous êtes prophète, prophétisez. Vous exhortez, allez-y, agissez. C'est ça que dit le chapitre. Il n'est pas là dans la question, quel genre de dons nous avons, etc. C'est d'autres sujets, même si c'est en lien avec ça. Mais dit, vous avez, donc vous agissez. Ça c'est important. Trois exemples en rapport avec la prophétie et aussi avec le service. Premier exemple, c'est Barnabas. Barnabas, appelé fils de consolation, c'est-à-dire fils de prophétie, c'est le même mot, fils de prophétie. Quand vous le voyez travailler, il y a des moments où il parle. Et il y a un autre moment en particulier, quand Paul aimerait se joindre aux frères de Jérusalem. On dit, en tout cas pas lui. En tout cas pas lui. Hein, il y a tellement eu de morts dans les rangs de l'assemblée qu'il n'est pas question qu'il rentre. Et le travail de Barnabas, fils de prophétie, c'était de faire de sorte que les frères et sœurs changent d'opinion sur cet homme qui va leur faire beaucoup de bien. Mais il fallait tout un travail, il fallait mouiller sa chemise. Voilà donc, entre autres, un prophète qui, de la part de Dieu, va dire les mots qui conviennent pour que celui qui voulait se joindre pourra, eh bien, participer à la vie de l'Église dans la liberté. Deuxième exemple, des sœurs, point d'interrogation. Ben, bien sûr, il y a les filles d'un évangéliste qui s'appelle Philippe. Et qu'est-ce qu'il a dit? Elles prophétisent. Alors, nous, on a toujours ajouté dans leur maison parce que ça nous aide bien. Mais c'est pas écrit. Elles prophétisaient. Voilà, ça s'arrête point. Alors, en tout cas, elles prophétisent, ou ça m'est égal, mais ça veut dire qu'elles parlent de la part de Dieu, mais elles font du bien. Une sœur qui sert le Seigneur, puisque ici il est dit, le service, soyons occupés du service. Eh bien, à la fin de ce, vous tournez la page, et vous trouvez une sœur qui est appelée servante de l'assemblée, diaconesse, parce que servir c'est diaconos. Donc, Phébé, au verset premier du chapitre 16, je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est servante de l'assemblée, qui est à Sancré, afin que vous la receviez dans le Seigneur, comme il convient à des saints, et que vous l'assistiez dans toute affaire pour laquelle elle aurait besoin de vous, car elle-même aussi a été en aide à plusieurs et à moi-même. Voilà là, une sœur qui a envie de servir. Mais pour que ça marche, il faudrait que ceux vers lesquels elle se trouve acceptent son service. Et voilà, s'ils acceptent, ça va fonctionner. Et il va y avoir cette harmonie dont on nous a parlé jusqu'à maintenant. Et donc, c'est des choses, des petites choses qui se font à la maison, qui se font dans le cadre de rencontres, de cellules de vie, de moments où on se retrouve ensemble. D'autres situations où l'église locale se retrouve pour se réunir, et chez nous on a l'habitude, c'est les frères qui participent à l'enseignement, donc toute la question d'enseignement dans les réunions plénières de l'église locale, c'est les frères. Mais c'est combien de pourcentage par rapport à une semaine entière, hein, le nombre de réunions? Il y a donc d'autres, il y a du temps, hein, pour que chacun puisse servir le Seigneur.
Il est question de l'exhortation, il est question de l'enseignement. Au verset 7 et 8. L'exhortation s'adresse à la volonté. Levons-nous, travaillons. L'enseignement s'adresse à l'intelligence spirituelle. On apprend à connaître. Mais nous avons besoin de tout. Nous avons besoin, pour la bonne santé du corps de Christ, nous avons besoin de tous ces services, tous ces dons. Mais le problème là, c'est celui qui enseigne, qu'il s'applique à l'enseignement. Il me semble qu'il y a quand même un peu plus loin, celui qui exhorte à l'exhortation. Faites votre travail. Faites votre travail. Et d'une certaine manière, bon, c'est peut-être pas trop le texte là, mais j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Nous avons besoin de fonctionner. C'est pas simplement, bon, ici, là, on est là, pour cette réunion, on est, six, si je compte bien avec un micro, trois qui utilisent plus le micro que d'autres, mais, c'est peut-être une histoire de fonction différente, certainement, je pense, mais, chacun de nous, nous avons besoin de fonctionner à notre place. C'est l'harmonie de la vie du corps de Christ et se vit comme cela. Et si l'un d'entre nous ne fait pas son travail, on tire de l'autre côté, on ne peut pas avancer. Et si quelqu'un veut aller au-delà de ce que Dieu lui a donné, ça fait une tumeur, ça marche pas. Et là, comment dire, il me semble que quand on prend tous les passages qui parlent de ce fonctionnement du corps de Christ, c'est souvent des aspects différents. On a vu, donc c'est, je répète, Éphésiens 4, 1 Corinthiens 12 et Romains 12. Eh bien, ces passages-là, ça mérite de bien les étudier et d'apprendre à les vivre ensemble. La pensée de Dieu, c'est la vie qui se manifeste, et la vie se manifeste dans l'harmonie, et la vie se manifeste dans la fonction de chacun. Nous avons besoin les uns des autres. Je répète ce qu'on a lu au verset 5. Nous qui sommes plusieurs sommes un seul corps en Christ et chacun individuellement membre l'un de l'autre. C'est, me semble, la clé du passage. Ça veut dire que il y a une réalité, un seul corps, mais nous sommes membres non pas du corps de Christ, mais l'un de l'autre. Autrement dit, dans ces dons qui sont présentés après, cette harmonie du corps de Christ se vit, j'ai besoin de toi. Si tu fais pas ton travail, ça n'ira pas. Et tu as besoin de moi. C'est chacun membre l'un de l'autre. La tête, c'est Christ, mais c'est un enseignement ailleurs. Mais chacun membre l'un de l'autre. Vous voyez l'harmonie qu'il y a là. C'est à la fois très beau et puis ça dépend aussi beaucoup de chacun de nous. Est-ce que tu fonctionnes ?
Un exemple de cette harmonie, c'est dans Acte 11, où on va voir les deux, ces deux capacités qui sont mises l'une à côté de l'autre. C'est quand on entend parler à Jérusalem de... Tiens, il y a une église nouvelle qui vient de se former à Antioche. On va aller voir là-bas s'ils sont bien dans la norme. Et alors, ils envoient Barnabas, dans le chapitre 11 du livre des Actes, ils envoyèrent Barnabas au verset 22. Et quand il fut arrivé, il vu la grâce de Dieu, il se réjouit. Et il les exhortait tous à demeurer attachés au Seigneur de tout leur cœur. Voilà, donc l'exhortation nous amène à nous attacher au Seigneur de tout notre cœur. Et ça, c'est l'essentiel. Et ensuite, il y a une grande foule, verset 24, qui est ajoutée au Seigneur. Et il s'en alla ensuite à Tarse pour chercher Saul. Après l'avoir trouvé, il l'amena à Antioche. Et pendant une année entière, ils se réunirent dans l'assemblée et enseignèrent une grande foule. Et ce fut aussi à Antioche que pour la première fois les disciples furent nommés chrétiens. Exhortation attachée au Seigneur. L'enseignement, c'est pour être fondé dans le Seigneur Jésus. C'est pas seulement aimer le Seigneur, mais ma stabilité. Hein, comme il dit, être attaché, mais être stable. Enraciné, racine, et puis édifié comme un bâtiment sur un bon fondement sur le Christ. Voilà la complémentarité entre ces deux dons, enseigner et exhorter.
Juste une petite chose en passant, ça veut donc dire que On ne pense pas qu'il y ait, par exemple, dans une église locale, un frère qui est l'ensemble des dons, c'est le seul qui parle, et puis tout le monde écoute. Ça fonctionne pas très bien, ça, hein. Et ça veut dire que quand on est dans une réunion comme celle-ci, où on étudie la parole de Dieu, hein, il a fallu solliciter un certain nombre de frères qu'on entend de temps en temps avec plaisir et qui restent loin des micros pour qu'ils s'approchent un petit peu. Il y en a d'autres qui aussi expriment de temps en temps des choses qui font du bien. Ben, il faudrait qu'ils y pensent pour s'approcher aussi des micros. Ça veut dire que si l'un d'entre eux a vraiment quelque chose à dire, eh bien, il se déplace, il s'approche et il exprime ce qu'il a exprimé, même si c'est une phrase ou deux. Hein. Voilà, on est soumis à Dieu véritablement. D'autre part, dans l'enseignement, on a bien vu dans notre passage celui qui enseigne. Donc ici, on le voit au masculin, mais c'est le membre qui enseigne. Donc, il faut bien prendre la chose dans la pensée de Dieu. Alors, pour les sœurs qui penseraient qu'elles ne sont pas concernées, là, elles ont un cadre et un domaine d'expression, c'est vrai, mais vous pourrez lire tranquillement Proverbe 1, c'est pas le seul passage d'ailleurs, il y a le pendant dans le Nouveau Testament, Proverbe 30, pour l'exemple de la femme, que son mari et ses enfants louent à cause de l'enseignement qu'elle apporte, par l'exemple dans la vie, par les responsabilités qu'elle prend et par l'implication qui est la sienne. Et puis, Tite 2 apporte aussi une indication sur la place de l'enseignement des femmes, ici des femmes d'expérience, vis-à-vis de femmes plus jeunes. Donc, vous voyez, c'est ça la parole de Dieu, c'est savoureux, parce que on ne peut pas cataloguer ça n'importe comment, faire des cloisons. Il y a un ensemble, on lit la parole de Dieu, plus on la lit, plus on trouve un domaine de liberté, et en même temps, plus on ressent, ah ça non, Dieu n'est pas d'accord. Mais, plus je lis la parole de Dieu, plus je découvre un domaine de liberté. Et par contre, il y a des noms absolus, parce que je sais que Dieu dit non à ça, non à cette place-là pour un tel, etc. Donc ça, c'est non. Mais par contre, je découvre une liberté de plus en plus vaste. Donc on ne fait pas n'importe quoi, mais véritablement, c'est la liberté, et la responsabilité est à Dieu. Le tout pour nous, c'est de rester à notre place, dans sa main. Et ça, ça fait du bien, on est libre là, on n'est pas pris dans un carcan, pas dans un système religieux, Jean-Luc en a parlé, qui nous placerait dans une sphère avec un certain nombre de règles. Pas du tout. C'est la parole de Dieu qui fait autorité. Chaque fois qu'on y trouve quelque chose de nouveau, hop, ça fait autorité. Si quelqu'un veut dire un petit mot encore sur cette portion-là, c'est possible, et puis ensuite on s'arrête un quart d'heure. Hein.
Peut-être juste un petit mot sur le dernière chose. Celui qui exerce la miséricorde, qu'il le fasse joyeusement. J'ai noté dans ma Bible, ressembler à celui qui est riche en miséricorde. Et c'est celui qui exerce la miséricorde, en fait, il ne peut le faire vraiment joyeusement que dans la mesure où il est conscient de la miséricorde dont il est l'objet.
Non, mais c'était simplement pour dire qu'il est parlé d'argent aussi là. Et l'exhortation, c'est dans ceux qui ont la dernière version qu'on a nous entre les mains, c'est celui qui distribue le fasse avec intégrité ou libéralement. Dans les relations chrétiennes, il y a eu beaucoup de relations qui ont été polluées par l'argent et qui a été peut-être donnée de manière très partiale. D'ailleurs, le problème. Un des premiers problèmes, on peut dire, de l'Église, c'est un problème d'argent, avec Ananias et Saphira, enfin en tout cas ça a été là plutôt une histoire de tricher. Mais la deuxième, une question entre des veuves qui étaient peut-être certaines ont donné plus à certaines qu'à d'autres. Donc pour montrer que c'est une question aussi sérieuse, le fait de distribuer, alors là c'est celui qui distribue, est-ce que ça veut faire un rapport avec, on confie peut-être à quelqu'un de l'argent lors de collecte, et puis voilà, il y a une distribution à faire, non pas en fonction de nos affinités, mais en fonction de besoins. Ça demande peut-être beaucoup plus de prières qu'on ne pense, et peut-être que je ne sais pas si on prie assez pour ceux qui ont cette responsabilité, mais en tout cas c'est quelque chose d'important. Et puis ensuite, il y a une autre chose dans ce verset 8 qui nous parle de celui qui est à la tête, qu'il préside ou conduise soigneusement, ce qui montre que l'Église locale n'est pas une démocratie, mais il y a aussi des autorités qui doivent être reconnues pour aider justement à ce fonctionnement harmonieux. Et on a un peu de peine peut-être avec ça, mais c'est un peu comme un pilote, bien sûr c'est le Seigneur le pilote, mais présider aussi ou conduire, c'est celui qui tient le gouvernail d'un navire. Ça veut dire que aussi le Seigneur confie peut-être à quelqu'un ou quelques-uns de pouvoir faire de sorte que les orientations, les projets, les objectifs de la vie d'une église locale aillent dans le bon sens. Et peut-être que il y aurait peut-être tout un débat qu'on n'a pas le temps de faire aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous est dit, que celui qui est à tête conduise soigneusement, avec zèle, avec sérieusement. Et cela aussi demande beaucoup de dépendance du Seigneur. Mais je crois que vraiment tout ce qu'il nous a donné là, c'est un cœur pour le Seigneur, mais en même temps avoir le discernement de la volonté de Dieu pour l'accomplir convenablement.
Merci Philippe. Donc pour ce complément utile, je vous signale qu'au sujet de l'argent, des richesses, il y a beaucoup de choses dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. C'est vrai que c'est capital ça, et prendre conscience que Dieu nous a donné quelque chose et qu'on a le gérer dans une administration sincère et droite devant lui, et sur le plan individuel et sur le plan collectif, c'est prendre conscience de quelque chose qui est important, très important dans la parole de Dieu, à cause de toute la pollution que l'homme a introduit à cet égard. Donc, merci de votre attention pour cette deuxième étape. Nous nous arrêtons un quart d'heure avant la troisième étape, et les enfants que je vois là-bas qui ont besoin de remuer peuvent aller courir et sauter dehors, ça leur fera du bien. À tout à l'heure.